le club de C'est pas du vent sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, soyez les bienvenus dans le club de C'est pas du vent avec les journalistes de RFI et d'autres médias. Nous faisons le tour de l'actualité environnementale internationale en revenant sur les sujets qui nous ont marqués. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Clévenot du Média en ligne Reporter. Bonjour.
Bonjour.
Simon Rosé et Lucille Gimbert du service environnement de RFI. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et Raphaël Morand de la rédaction Amérique latine qui travaille aussi au service environnement de RFI. Bonjour Raphaël.
Buenos dias.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, en une phrase, de quoi allez-vous nous parler, Emmanuel Clévenot ?
Du discours de politique générale de François Bayrou et à savoir s'il a parlé ou pas d'écologie.
Quel suspense ! Lucille Gimbert.
Des élections agricoles, des syndicats agricoles en France, avec derrière tout ça l'enjeu de faire la transition du modèle agricole français.
Et oui, est-ce que ça va passer ou pas, Raphaël ?
On va parler de la reconstruction des banlieues de Los Angeles qui ont été dévorées par les flammes.
Oui, on en parle beaucoup sur cette antenne. Et du coup, Simon Rosé.
Eh bien, les incendies de Los Angeles qu'on qualifie de méga-feu. Et ce qu'est un méga-feu, ce que ça veut dire climatiquement, mais également dans notre rapport d'humain par rapport au feu. On dit qu'on est entré dans l'ère du pyrocène, l'ère du feu. On va voir un peu tout ça.
On va raconter pourquoi le pyrocène. Nous irons au Burkina Faso aussi avec le film Hip-Hop qui nous permettra de rencontrer l'agriculteur Zongo Amidou qui se sent impuissant face aux conséquences du changement climatique sur ses récoltes. Il y aura aussi la chronique culture et tout cela, c'est grâce à Caroline Filliette. Vous avez le programme, c'est parti.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et tout d'abord, un peu de ressenti de chacun. Commençons par un petit tour de ce qui vous a surpris, étonné ou amusé dans l'actualité environnementale de ces derniers jours. Emmanuel Clévenot.
Ben mon étonnement, ou plutôt mon coup de gueule, concerne aujourd'hui le rugby. Ce week-end, les joueurs du Stade Toulousain ont affronté les Sharks de Durban. C'est un club d'Afrique du Sud. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que ce match est l'illustration parfaite du non-sens écologique qui est en train de devenir la Champions Cup. Cette compétition, anciennement appelée la Coupe d'Europe de rugby, voyait s'affronter jusqu'à peu les meilleurs clubs de France, d'Irlande et du Royaume-Uni. Seulement voilà, pour générer de nouveaux revenus, elle a été ouverte aux équipes d'Afrique du Sud. Tant pis si c'est pas en Europe et tant pis surtout pour tout le kérosène rejeté dans l'atmosphère. Reporter a quand même fait les comptes. Les 49 joueurs et membres du staff toulousain ont emprunté 8 avions et parcouru 22 000 km, le tout pour jouer un match de 80 minutes.
Simon Rosé.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que la Fédération internationale de rugby, la World Rugby Union, est l'une des seules à avoir travaillé justement sur les conséquences du réchauffement climatique sur la pratique du sport, parce que les fédérations, bah, notamment d'Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Samoa, Tonga, sont parmi les premières menacées par la montée des eaux, notamment en conséquence du réchauffement climatique. Et c'est la seule vraiment à avoir fait un travail un peu recensement des conséquences du réchauffement climatique sur la pratique du sport. Donc c'est d'autant plus paradoxal.
Là.
Bon, après là, on parle de clubs, on parle pas la World Rugby Union, ce sont les sélections nationales, là, ce sont les clubs qui passent à la télé, donc les droits télé, donc il faut faire des matchs qui rapportent de l'argent. Mais il y a du travail à faire, oui. Ouais.
Simon Rosé, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui vous a étonné ou blasé. Surpris dans l'actualité ?
Blasé, encore énervé. Une fois, comme toutes les semaines, on est blasé. C'est Oxfam qui s'est amusé à compter, vous savez qu'on a tous une empreinte carbone, la quantité de dioxyde de carbone que nos activités peuvent émettre dans l'atmosphère si on ne veut pas dépasser les limites de l'accord de Paris, c'est 2 tonnes par habitant en France. Oxfam s'amusait à compter...
Enfin, dans le monde, hein.
Dans le monde d'ailleurs, où je dis en France, mais parce que
chacun d'entre nous.
Dans le monde. En France, on est plutôt à 7-8 par habitant. Et les plus riches, bien sûr, sont bien plus hauts. Oxfam s'est amusé à compter. Et les 1% les plus riches de la planète ont cramé leur budget en 10 jours seulement. Donc, belle moyenne, belle perf. Et Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, l'a fait en 2h15. Voilà, donc on ne va pas compter combien de ça ferait sur une année entière. Hein, faut multiplier par 12, puis par 365.
Donc Bernard Arnault, 2h15, je ne sais pas, Elon Musk, 5
minutes.
Elon
Musk, ouais, la bonne demi-heure, bien tapé. Mais bon, bah, c'est toujours pareil, on dit que la transition doit être juste et équitable. Ce n'est pas des mots en l'air.
Eh non, ça c'est bien démontré. Lucille Gimbert.
Alors moi c'est le chantier pharaonique qui attend l'Europe face à la pollution au PFAS. On parle souvent des effets sur la santé ou de l'immensité de cette pollution. Le Monde et un consortium ont calculé le coût éventuel.
Le journal Le Monde,
ouais. Ces substances chimiques très utilisées par les industriels, notamment dans les poêles en téflon, hein, les mousses anti-incendie ou encore les vêtements imperméables. Elles sont partout dans nos sols, dans l'eau, dans les êtres vivants, donc nous, et très persistants. Et elles représentent un danger, je le disais, pour la santé publique, parce que l'exposition au PFAS a été reliée à de nombreuses maladies. Cancer, infertilité, toxicité pour le rein, le foie et ou encore le système immunitaire.
Très bien, bah écoutez.
Et donc, le journal français Le Monde et 29 médias partenaires ont pu calculer le prix qu'atteindrait cette décontamination en Europe. Et c'est assez vertigineux. 100 milliards d'euros par an, c'est plus de la moitié du budget annuel de l'Union européenne. Et c'est à perpétuité, à moins qu'on stoppe le rejet des PFAS dans l'environnement. Et puis, les travaux seraient d'envergure. Hein. Je n'avais pas imaginé à quel point il faut excaver des quantités astronomiques de terre, filtrer les eaux souterraines, broyer, brûler à haute température de la végétation, j'en passe. Il y a sur le vieux continent au moins 23 000 sites pollués aux polluants éternels.
Oui, c'est pas ça qui va nous donner, nous prendre le moral dans les bonnes nouvelles. Alors, Raphaël Morand, une bonne nouvelle? Non.
Non, une indignation, un coup de gueule aussi.
On n'y arrivera jamais toutes les semaines, je vous assure, chers auditeurs. Je dis aux journalistes qui participent à cette émission, essayez de trouver du positif, des bonnes nouvelles. Mais c'est dur. Alors, racontez-nous
donc
votre énervement.
Oui, il porte sur la décision du gouvernement du Salvador, un petit pays d'Amérique centrale, de relancer l'extraction minière de métaux précieux. Le président Nayib Bukele est convaincu qu'on peut exploiter de l'or sans détruire l'environnement. Et il a fait voter, donc sans débat, par son parti, une loi qui rétablit l'extraction minière métallique fin décembre. Pourtant, elle était interdite depuis 2017 au Salvador. Il faut dire que les mines dans ce pays ont laissé un mauvais souvenir, des procès interminables avec des compagnies minières étrangères qui avaient attaqué l'État en justice, des fleuves encore pollués à l'arsenic aujourd'hui, et des revenus très maigres et des conflits locaux. La relance de cette activité a provoqué une levée de boucliers des ONG environnementales, des collectifs locaux et même de l'Église catholique qui s'est mobilisé pour tenter de contrer cette loi qui a finalement été adoptée. Et on regrette vraiment que le Salvador, l'un des rares pays qui interdisait l'extraction de métaux, ait fait machine arrière.
Merci à tous pour ces bonnes nouvelles.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Hier donc, nous vous en avons parlé sur RFI, le nouveau Premier ministre français François Bayrou a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale.
La première question, c'est la transition écologique. L'écologie, au contraire de ce que certains pensent, ça n'est pas le problème, c'est la solution, ou en tout cas la solution que nous privilégions. L'effort à mener sur ce sujet crucial, cette adaptation au changement climatique, la France l'a commencé mieux et davantage qu'aucun autre pays au monde.
Emmanuel Clévenot, avec le Média Reporter, vous avez écouté ce discours en entier, car là c'est un extrait qu'il a fallu aller chercher, parce que ce discours en général est fondateur, puisqu'il donne les grandes lignes de la politique du gouvernement. Alors, sur l'écologie, ça a donné quoi ?
Eh bien, ça a été plus que léger. Pourtant, dès ses propos liminaires, François Bayrou a déclaré, je cite, « Les sujets d'inquiétude sont innombrables, mais il en est un toutefois qui émerge avec une force criante. » Alors lequel, à reporter pas loin d'un doute, on s'est dit que le Premier ministre allait évoquer la crise climatique. Eh bien non, il parlait là du surendettement de la France. Cette épée de Damoclès, qui jamais n'a été telle depuis la guerre, a-t-on appris, a complètement obnubilé le maire de Pau. Il a aussi longuement présenté ses priorités, au premier rang desquelles l'éducation, viennent ensuite au deuxième rang les Outre-mer et enfin au troisième rang la sécurité, avec Gérald Darmanin, garde des Sceaux, et Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Vous l'aurez compris, le climat n'entre pas dans la matrice idéologique du nouveau locataire de l'hôtel Matignon. Alors tant pis si la biodiversité s'effondre, tant pis si les 1,5 degrés de réchauffement ont été franchis pour la première fois en 2024, tant pis aussi pour Mayotte et Los Angeles, tout ça attendra.
Alors François Bayrou a tout de même fini par évoquer la question de la transition écologique.
Exactement, après plus d'une heure de pérégrination, François Bayrou a accordé 1 minute et 40 secondes à cette thématique, soit 1,9% de son temps de parole. Alors qu'a-t-il raconté ? Déjà, rassurons tout le monde, il n'y a pas de raison de paniquer. À ses yeux, la France a déjà commencé à s'emparer de ce sujet crucial, je cite, « mieux et davantage qu'aucun autre pays au monde ».
On l'entendait il y a quelques minutes.
Exactement. Alors d'où tient-il cette information ? Mystère, on a cherché mais on n'a pas trouvé. Le Premier ministre a ensuite brièvement déclaré qu'il comptait finaliser la stratégie bas carbone, qui accumule déjà des mois de retard, mais aussi préserver la biodiversité, ça il n'a pas dit comment, et enfin produire de façon décarbonée à l'aide de nouvelles technologies. Sur cette question de l'énergie, le Béarnais a par ailleurs qualifié le nucléaire et la géothermie d'axes essentiels, sans jamais évoquer les énergies renouvelables. Et puis il a fermé cette courte parenthèse écologiste en certifiant « garder un œil au dossier des mobilités adaptées » en citant notamment l'hydrogène, lui qui, après citant le Falcon présidentiel pour ses allers-retours à Pau, croit dur comme fer au mythe de l'avion vert.
Et oui, il est allé à Pau, il faut expliquer à nos auditeurs, Pau c'est pas très très loin finalement.
4h30 en train, je crois.
Voilà, et il a préféré prendre un avion, évidemment que beaucoup de gens ont réagi et ça a été à plusieurs reprises. Alors justement, Emmanuel, comment réagissent les associations écologistes à l'issue de ce grand oral? On a une petite idée.
Sans surprise, ça a été la grogne générale. Mmh. Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace France, a déclaré, je cite, « Comment est-il possible en 2025 de passer à ce point sous le silence la question climatique ?» Il a également déploré une vision productiviste et technosolutionniste de la lutte contre le changement climatique. Et pour cause, François Bayrou s'est réjoui dans son discours que la Silicon Valley déroule ses tapis rouges à nos ingénieurs du numérique et de l'intelligence artificielle. Du côté de France Nature Environnement, c'est surtout les déclarations sur l'agriculture qui ont choqué. Devant le Parlement, le Premier ministre a scandé « Les paysans, le monde dont je viens, avaient jusqu'à peu la certitude d'être les meilleurs connaisseurs et défenseurs de la nature. Aujourd'hui, on les accuse de nuire à la nature et c'est une blessure profonde. » Aux yeux d'Antoine Gatté, le président de FNE, ce sont là les mêmes éléments de langage que ceux rabâchés par le syndicat majoritaire de la FNSEA. Le militant dénonce aussi une attaque inacceptable à l'encontre des agents de l'Office français de la biodiversité. En effet, François Bayrou les a accusés d'humilier les agriculteurs en réalisant leurs inspections de terrain avec une arme à la ceinture.
Alors pour conclure, le chef du gouvernement français est-il menacé au lendemain de cet exercice périlleux ?
Alors pas dans l'immédiat, car le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé qu'il ne votera pas la motion de censure qui doit être examinée demain. En revanche, si François Bayrou espérait rallier à sa cause le Parti socialiste, c'est raté. À la fin du discours, le président du PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, a confirmé demeurer dans l'opposition. « Nous ne voulons aucun portefeuille ministériel et nous refusons les combines et les combinaisons », a-t-il déclaré, avant qu'Olivier Faure ne confirme cette position dans la soirée en ajoutant « être prêt à voter la censure ». Les écologistes réclamaient, eux, que 7 milliards d'euros soient orientés vers la transition. Tant que vous vous obstinez à ne rien changer, nous n'aurons pas d'autre choix que de continuer à vous censurer, a donc scandé Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe. Une menace aussitôt réitérée par l'insoumise Mathilde Panot, qui a déclaré, je cite, « Le plus tôt vous serez parti, le mieux ce sera ». Et pour rappel, en décembre 2024, Michel Barnier avait été renversé 3 mois seulement après sa prise de fonction, du jamais vu depuis 1962. Alors François Bayrou fera-t-il l'exploit d'un passage à Matignon encore plus éphémère ? Réponse demain après-midi.
Voilà, attendons un petit peu. Simon Rosé.
Oui, le juge de paix, ce sera le budget, justement, puisque dans le projet présenté par Michel Barnier, qui lui a valu la censure, il y avait d'énormes coûts prévus pour la transition écologique en France. Coupe du fonds vert, suppression du fonds vélo et j'en passe. Et le texte qui servira de base aux discussions qui reviendront au Parlement, c'est la même copie que celle qui avait été votée au Sénat, donc présentée par Michel Barnier. Donc ça, à voir un peu à quelle enseigne on va être, comment on va être croqué, pour le dire comme ça. Et quand on parle de l'urgence et quand François Bayrou dit que la France fait mieux que tout le monde, youpi, non, parce que la France s'est placée elle-même sur une trajectoire. Ses objectifs qu'elle s'est fixés elle-même, c'est une diminution de l'empreinte carbone française de 4,7% par an. On a tenu les clous en 2023. En 2024, les émissions françaises sont reparties à la hausse sur le troisième trimestre. On est plutôt à 2, et des patates, j'ai plus le chiffre en tête. Exactement, pardon. La journée était longue. 2% et quelques sur l'année 2024 en attendant les chiffres du dernier trimestre. Et ça repart à la hausse. La dynamique est très mauvaise.
Et nous nous sommes en retard notamment aussi sur la transition écologique, le développement durable.
Et c'est là où j'allais, en venir. C'est la lecture qu'on fait de la déclaration de politique générale de François Bayrou. C'est encore une fois une lutte contre le réchauffement climatique sous le prisme énergétique. Oui. On ne considère que l'énergie. Certes, il mentionne la biodiversité, mais la question des sols, la question des mobilités, du chauffage, de l'habitat, de l'agriculture, ce n'est pas que produire de l'électricité décarbonée, lutter contre le réchauffement climatique. Et en France, on a tendance, et comme dans beaucoup de pays, on a tendance à l'oublier.
Oui, oui, voilà. Il ne s'agit pas simplement de décarboner l'économie, c'est systémique l'écologie. Et malheureusement, tout le monde ne semble pas l'avoir compris. Dans un instant, nous vous emmènerons au Burkina Faso, où un agriculteur essaye de s'adapter aux conséquences du changement climatique. Mais d'abord, place à la musique avec les Jamaïcains The Gladiators et leur titre Looks is Deceiving sur RFI.
Parable. Old time people them used to say, when short mouth tell you you can't live, so when long mouth tell you, you go feel it, feel it. You talk too much, you will pay for what you don't eat. Go never know the use of him till the butcher cut it off. Go never know the use of him till the butcher cut it off. Looks is deceiving man, don't underrate no man. Looks is deceiving, yeah, don't underrate no man. Don't watch the tool you work it can do. Watch the man that behind it.
The man laugh first, him no laugh yet. The man laugh last, get it full.
Looks is deceiving, yeah. Don't underrate no man. Looks is deceiving, yeah. Don't underrate no man. Don't watch the tool, the work it can do. Watch the man that behind it.
The man laugh first, him no laugh yet. The one laugh last, get it full.
Why red down here in a Babylon?
C'était les Jamaïcains de Gladiators et leur titre Looks is Deceiving sur RFI. Et voici la chronique hip-hop pour Petites Ondes Participatives. Hip-hop, c'est un réseau de vidéastes amateurs qui recueillent des témoignages pour humaniser le débat. Et c'est une chronique de Caroline Fillette.
Aujourd'hui, direction le Burkina Faso et plus précisément à Nariou, au centre-ouest du pays, où nous partons à la rencontre de Zongo, cultivateur. Ce dernier déplore la sécheresse galopante dans ses champs depuis plusieurs années. Ce reportage hip-hop, intitulé « Et quoi dans nos greniers ?», a été réalisé par Jonas Yemeogo et nous allons en écouter un extrait.
Je m'appelle Zongo Amidou. Cela fait plus de 20 ans que je cultive ici. Durant ces 20 dernières années, nous semions le 8 mai, s'il pleuvait, et c'était OK. Il pleuvait suffisamment, mais maintenant, il ne peut plus assez. Cette année, la pluie a débuté en juin, vers le 28, et donc très en retard. Et aussi, il n'a pas assez plu. Nous avons eu 17 jours sans pluie et ça a vraiment gâté les choses. Le sorgho a séché alors qu'il montait en graines et du coup il ne peut plus produire. Aux alentours du 10 octobre, la pluie était abondante, mais c'était trop tard. Et les haricots, qui étaient déjà prêts, ont pourri. Avant, je cultivais à la main. Mais depuis que j'ai un bœuf, il n'y a plus de bonne pluie. Et du coup, le bœuf ne travaille plus. Nous cultivons aussi du sésame. Mais cette année, il a été attaqué par une maladie qu'on appelle la lèpre du sésame. Et tout a été détruit.
Bonjour Jonas.
Bonjour Caroline.
Merci d'être avec nous pour nous présenter ce film qui a été classé 5e du Grand Prix du concours Hip-Hop 2020. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le témoignage de Zongo ?
Ce qui m'a le plus intéressé dans son témoignage, c'est le fait qu'avec beaucoup d'autres populations, il fournit beaucoup d'efforts, mais à la fin, ils n'ont rien pour amener à la maison.
Oui, parce que Zongo est cultivateur de sorgho et de sésame, mais ces cultures sont complètement asséchées, voire malades, donc totalement inexploitables. C'est une catastrophe pour lui et les autres agriculteurs de cette région.
Au fil des années, nous, en tant qu'enfants d'agriculteurs, étant tout petits, nous avions vu comment la saison se passait. Au fil des années, les pluies ne faisaient que se rétrécir. Actuellement, ici, en Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas plus de 2 mois de pluie. Et souvent, dans ces 2 mois, il y a des temps de sécheresse. Du coup, les agriculteurs, à la fin de la saison, ils n'ont pratiquement rien pour leur grenier.
Oui, ce film a été réalisé en 2020 et l'année 2024 a connu des épisodes de pluie intense suivis d'inondations dramatiques sur le continent africain. Donc de la sécheresse aux inondations, la situation des agriculteurs est très compliquée. Savez-vous, Jonas, si des solutions ont été mises en place sur place pour les aider à surmonter ces épreuves ?
Caroline, il faut dire que des recherches sont faites de part et d'autre. Mais le plus important, c'est le comportement des agriculteurs. Puisque les saisons changent au fil des années, ils sont obligés de s'adapter. Et en fonction des années, les agriculteurs essaient de varier les semences. Étant tout petit, nous voyons que les pluies allaient de 4 mois, 3 mois. Actuellement, nous n'avons pas plus de 2 mois de pluie. Du coup, il faut avoir des semences qui ne durent que 2 mois pour pouvoir avoir une bonne récolte. Et aussi, il y a des techniques qui sont mises en place pour permettre de retenir un peu d'eau en temps de sécheresse pour pouvoir entretenir les plantes, histoire de pouvoir quand même avoir quelque chose au bout de l'effort.
Et oui, il faut savoir s'adapter. Merci beaucoup, Jonas, pour votre éclairage.
Je vous en prie, Caroline. Merci pour la parole.
Merci Caroline et merci à Gaëlle Flaugère qui anime la communauté hip-hop avec Max Ball de RFI Planète Radio et les chercheurs de l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Et nous ferons d'ailleurs le point sur le concours hip-hop 2024 demain dans C'est pas du vent. Nous restons dans cette thématique de l'agriculture avec vous, Lucille Gimbert du service environnement de RFI. Vous avez noté que les signaux envoyés au premier syndicat agricole de France hier par François Bayrou, comme Emmanuel nous en parlait tout à l'heure, François Bayrou, lors de son discours de politique générale, eh bien, ce ne sont pas des signaux qui ont été envoyés par hasard. Les élections pour les chambres d'agriculture démarrent aujourd'hui en France sous le feu des projecteurs.
Oui, pendant 2 semaines, 2 millions d'exploitants agricoles actifs ou retraités, leurs conjoints en activité aussi. On l'oublie souvent, mais nombreuses femmes travaillent aux côtés de leur mari agriculteur, souvent sans être reconnues à la hauteur de leur travail. Il y a aussi les salariés agricoles, les propriétaires fonciers qui sont appelés à voter par correspondance ou en ligne pendant 2 semaines, donc je le disais. Une exception, Mayotte, où le vote a été reporté en raison des dégâts causés par le cyclone Chido. Ce scrutin de la profession qui a lieu tous les 6 ans, il a rarement porté autant d'enjeux et attiré autant l'attention. Parce que d'abord, voilà plus d'un an que les agriculteurs français manifestent dans la rue pour dénoncer leurs difficultés économiques. Ils manifestent contre le traité de libre-échange avec le Mercosur et encore contre le poids, selon eux, des normes administratives et notamment des normes environnementale et surtout, cette fois-ci, le syndicat majoritaire, la FNSEA, pourrait perdre son hégémonie.
Alors, pour quelles raisons la FNSEA pourrait perdre de l'influence ?
Eh bien, aujourd'hui, la situation actuelle, c'est que l'alliance syndicale majoritaire, donc entre la FNSEA et les jeunes agriculteurs, JIA, tient la quasi-totalité des chambres régionales et départementales du territoire. Elle préside 97 chambres agricoles sur 101, après avoir recueilli 55% des suffrages il y a 6 ans, en 2019. C'est le mode de scrutin qui fait la part belle au premier arrivé dans les résultats. Le premier empoche 50% des sièges de la Chambre agricole, le reste étant réparti proportionnellement au pourcentage de chaque syndicat. Cette fois-ci, la FNSEA et JA se présentent à nouveau en alliage, mais leur hégémonie est contestée sur le terrain par la coordination rurale, arrivée deuxième en 2019, qui est montée en puissance durant toute cette année de mobilisation. La CR, comme on l'appelle, revendique une hausse de ses adhésions et espère cette fois-ci rafler entre 15 et 20 chambres agricoles.
Alors, quelles sont les particularités de la coordination rurale ?
Alors, les militants du syndicat Coordination Rurale, ils sont connus d'abord pour leur bonnet jaune et puis pour leurs opérations de communication coup de poing dans leur bastion. Ils ont 3 chambres d'agriculture actuellement, notamment dans le sud-ouest de la France. Ils n'hésitent pas à s'en prendre physiquement aux administrations ou à avoir recours à la menace contre leurs adversaires, notamment les défenseurs de l'environnement. Ce syndicat, il est né dans les années 90. Hein. C'est une scission de la FNSEA, née pour critiquer plus durement la politique agricole européenne. La CR, pour ses sigles, s'est aussi emparée du mal-être paysan, qui est bien réel, à l'occasion d'une vague de suicides dans les campagnes françaises. Et elle tient aujourd'hui un discours plus radical que la FNSEA. La FNSEA qu'elle accuse de proximité avec les gouvernements successifs. Certains des leaders de la CR, eux, ne cachent pas leurs incohérences avec l'extrême droite. Sur le terrain, cela a donné donc toute cette année une course à l'échalote entre la coordination rurale et la FNSEA dans les mobilisations, pour faire des opérations choc médiatisées et taper en particulier sur les administrations en charge de la protection de l'environnement.
Alors pourquoi est-ce que c'est important du point de vue environnemental cette élection professionnelle ?
Eh bien parce que le financement public des syndicats agricoles dépend du résultat de ces élections, que les chambres d'agriculture en France permettent de peser sur le gouvernement, sur les élus locaux et donc sur l'orientation de la politique agricole française. Or, face au réchauffement climatique qui s'accélère, il est urgent de transformer le modèle agricole actuel en France. Le secteur agricole tel qu'il est aujourd'hui est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre du pays après les transports. C'est en raison du méthane qui est produit par l'élevage, mais aussi des rejets d'azote ou encore du dioxyde de carbone émis par l'usage du carburant pour les tracteurs par exemple, pour les machines. Urgent donc de le transformer pour freiner ce réchauffement mondial et sa ribambelle de catastrophes dont on va parler encore aujourd'hui, sécheresse, incendie, inondation, des catastrophes qui frappent d'ailleurs de plein fouet celles et ceux qui travaillent la terre, on l'entendait au Burkina Faso, c'est le cas aussi en France. Le syndicat, il y en a un troisième, il y en a même 5 au total, mais le troisième arrivé aux dernières élections en 2019, c'est un syndicat classé à gauche, la Confédération Paysanne. Elle est à la tête d'une seule chambre agricole, celle de Mayotte, et espère gagner cette année une dizaine de chambres dans le pays. Ce syndicat pousse pour une agriculture plus en harmonie avec la nature, nature que le modèle intensif a détruit. Elle défend cette Confédération Paysanne l'agroécologie, c'est-à-dire un modèle agricole qui s'appuie sur des écosystèmes naturels sains avec insectes, arbres, haies, tandis que les deux premiers syndicats dont on a parlé tout au début, ils défendent bec et ongle le modèle actuel productiviste avec beaucoup de pesticides et une exploitation intense des sols.
Merci Lucile Gimbert de cet éclairage sur ces élections dont on ne parle pas assez. Emmanuel Clévenot du Média Reporter, vous vouliez réagir ?
Oui, je pense que ce qu'il va falloir surveiller aussi, c'est le taux de participation à ces élections, parce que élection après élection, l'abstention bat des records. On était à 45% d'abstention en 2007, 63% en 2013, et c'était monté à 71,5% en 2019. Donc il va falloir garder un œil là-dessus. Je pense que c'est aussi lié à la défiance des plus jeunes agriculteurs. Dans Reporter, on interviewait un éleveur de vaches dans la Manche qui nous disait à quoi bon aller voter puisque de toute façon, tout se passe à Bruxelles. Donc voilà, c'est à mon avis, si on veut aussi qu'il y ait moins de défiance, il faudrait que ces chambres soient plus représentatives. Et comme vous le disiez, ça sera intéressant aussi de se pencher sur ce mode de scrutin qui est un peu pipé avec du coup la FNSEA. C'est un mode de scrutin qui a été créé par la FNSEA et pour la FNSEA finalement. Et du coup, en 2019, avec seulement 55% des voix, ils avaient la main sur plus de 95% des chambres. Donc, voilà.
À suivre de près, en tout cas. Dans un instant, nous vous ferons découvrir une grande dame avec la chronique culture de Caroline Fillette. Je tais son nom pour l'instant. Mais d'abord, un petit tour par la Suisse avec Arma Jackson et son titre « Who's Bad » dans ses pas du vent.
Toujours dans ma but. Quand j'étais petit, je rêvais d'aventure. Toujours arrivé, je voulais esquiver la réalité. Tout le temps dans mes pensées, j'avais en esprit des choses insensées. Plus casque aux oreilles, enfermé dans ma chambre. Et soudain, je me sens. Je me sens sexy, je me sens comme Elvis. Je me sens comme Denzel, je me sens fantastique. Je me sens artiste. Et j'ai la danse, le jeu de jambes quand elle demande. Je me sens renaître, je me sens ailleurs. Je me sens plus le même. Quand maman passe devant ma chambre et qu'elle entend. La journée, je reste calme. Mais quand je rentre chez moi, je m'enferme à clé, à double tour. Et tous les jours, je danse comme dans Rousseberg. Je danse comme dans Rousseberg. Pour oublier qu'elle est fat. Et quand je lui donne un peu d'estime, mes skins, je finis toujours un peu déçu. Je danse comme si j'oubliais mes limites. Qu'avait plus crié moi sur la piste. Je mets le casque, c'est la fête. Et je m'éclate comme si j'avais rien à perdre. Et je m'éclate comme si c'était moi la fête. Et je vis la vie comme si j'en avais deux. Je mets le casque, je ferme la porte. Et je manque le volume au maximum. Ils pensent que je suis triste parce que je m'isole. Alors que je suis triste rien qu'avec eux. La journée je reste calme, mais quand je rentre chez moi, je m'enferme à clé, à double tour, et tous les jours, je danse comme dans Rousseberg. Je danse comme dans Rousseberg.
Vous ne l'auriez pas entendu, c'était Who's Bad de la Suisse Arma Jackson, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes. Et voici l'heure de la chronique culture.
RFI. Le club de C'est pas du vent sur RFI.
Caroline Fillette, vous allez nous présenter une bande dessinée qui met à l'honneur une pionnière de l'écologie.
Eh oui, Anne-Cécile. Bon, je sais que la team environnement de RFI aime bien jouer, donc on va essayer de trouver le nom de cette femme mystère en mode question pour un champion.
Emmanuel, vous pouvez jouer aussi. Hein.
Oui, vous avez le droit de jouer, Emmanuel. Est-ce que vous êtes prêt?
Bah oui.
Top chrono. Je suis une femme née en 1899. Passionnée par la mer dès l'enfance, je commence à cartographier les zones de pêche pendant l'entre-deux-guerres. Cette activité scientifique contribue d'ailleurs à rationaliser les pratiques de pêche au large. On me présente souvent comme la première femme océanographe. Je suis.
Aïe. Moi, je ne peux pas jouer parce que j'ai le nom sous les yeux.
aïe, dommage. Franchement. C'était Anita Conti. Ça vous dit quelque chose, bien sûr. Alors, tout comme Rachel Carson, hein, première lanceuse d'alerte sur les dangers liés aux pesticides dont je parlais ici même il y a quelques semaines, Anita Conti est malheureusement, et on peut le constater, hein, aujourd'hui, assez peu connue du grand public.
Et des experts. Alors, heureusement que vous êtes là, Caroline, et heureusement que le roman graphique de Catel et Boquet, paru récemment chez Casterman, réhabilite le parcours de celle que l'on surnommait la Dame de la Mer.
Oui, moi j'avoue, je ne connaissais pas grand-chose non plus au parcours remarquable d'Anita Conti et cette bande dessinée est absolument délicieuse à lire. On y apprend notamment que quelques semaines à peine après sa naissance, le père d'Anita Conti la baigne dans l'Atlantique au large de l'Orient. Alors est-ce cette baignade dans l'eau bretonne qui ne devait pas être super super chaude hein,
qui C'est a une suscité... bretonne qui parle.
Et c'est une bretonne qui parle qui a suscité la vocation d'Anita. Alors à la fois océanographe, photographe, cinéaste, cinéaste, journaliste, essayiste, Anita Conti a cherché toute sa vie à percer les mystères de l'océan, depuis Terre-Neuve, en passant par l'Adriatique jusqu'aux côtes mauritaniennes, n'ayant pas peur d'être la seule femme à bord d'énormes chalutiers et autres dragueurs de mines.
Alors elle a d'ailleurs passé un long moment sur le continent africain.
Et oui, effectivement, Anne-Cécile, en 1943, le gouvernement d'Alger lui commande une recherche sur les ressources du poisson du littoral ouest africain et les méthodes de pêche traditionnelles qui y sont pratiquées. Alors ainsi, pendant presque 10 ans, Anita Conti se consacrera à étudier et à prospecter les côtes de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Expérience qu'elle racontera dans son livre paru en 1957, « Géant des mers chaudes ».
Mais elle était aussi et surtout une écologiste avant l'heure.
Et oui, absolument, car dès les années 30, Anita Conti lance l'alerte sur les dangers de la pollution et de la surpêche. Elle est désespérée de voir autant de gâchis de poissons alors que tant de gens meurent de faim. Donc 30 ans plus tard, dans les années 60, elle tente d'apporter une réponse en se révélant pionnière de l'aquaculture. Alors l'aquaculture, je le rappelle, c'est l'ensemble des activités de culture de plantes et d'élevage d'animaux en eau continentale ou marine en vue d'en améliorer la production. Et l'aquaculture, ben, ça regroupe la pisciculture, l'élevage de poissons, la conchyliculture, élevage de coquillages marins comme les huîtres et les moules, et l'algoculture, la culture des algues. Anita Conti était donc une véritable défricheuse. Et cette bande dessinée nous fait découvrir aussi que Anita Conti navigue sur les bateaux jusqu'à l'âge de 85 ans, quand même. C'est impressionnant car elle a passé plus de temps sur mer que sur terre et elle consacre le reste de sa vie à donner des conférences pour partager sa passion, ses expériences et transmettre ses convictions. J'ai rencontré Katel Muller, la dessinatrice de cette BD, et je lui ai demandé si elle connaissait le parcours de la Dame de la Mer avant de se lancer dans ce roman graphique.
J'avais entendu parler d'Anita Conti tout simplement par José-Louis Boquet, le scénariste et mon conjoint, qui l'avait rencontrée en vrai fin du XXe siècle. Il avait été impressionné par son humour, par sa gentillesse, par aussi sa modestie. Et donc il a acheté ses livres et il est tombé complètement presque amoureux de ce personnage qui avait quand même plus de 95 ans. Hein. Et quand on s'est installé à Fécamp, on s'est rendu compte qu'il y avait un lycée Anita Conti, qu'il y avait un bateau Anita Conti, une rue Anita Conti. Et moi-même, je me suis mise à m'intéresser à ce personnage en achetant ses livres, en lisant, jusqu'au moment où il y a eu le confinement et que là, nous a paru évident qu'Anita Conti était une figure majeure de l'environnement, en fait, et de l'écologie.
Comment avez-vous dessiné ce personnage ? Moi, ce que j'ai remarqué dans le livre, c'est que Anita Conti est une femme rayonnante, extrêmement souriante. Sur quoi vous vous êtes basée pour la dessiner de cette façon ?
C'est vrai qu'elle est très souriante et d'ailleurs, sur la couverture, elle est souriante alors qu'elle est quand même dans un univers très dur et qu'elle parle de choses qui ne sont pas très agréables, hein, sur la surpêche, sur les voyages en bateau à l'autre bout du monde pour pêcher au maximum des morues sur ces grands chalutiers. Elle vient d'un milieu bourgeois et on lui a appris la bienséance, on lui a appris à toujours sourire, à toujours être bien dans toutes circonstances. C'est ce qui lui a permis certainement d'être bien avec les marins sans jamais se plaindre dans les conditions extrêmement dures, hein, de froid, d'humidité, de violence extérieure. Sur un bateau, seule femme avec plus de 50 hommes, et donc elle doit se faire respecter. Elle y arrive très bien, sinon elle n'aurait jamais pu retourner sur ses bateaux, d'autant plus qu'à cette époque, au milieu du XXe siècle, on estimait jusque-là qu'une femme sur un bateau s'était portée malheur. Et elle s'est tellement fait aimer par ses matelots, ses marins, ses commandants, qu'elle est devenue la dame de la mer.
Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans son histoire ?
Alors, il faut savoir qu'elle a vécu très longtemps. Elle est née à la fin du 19e siècle et elle est morte à la fin du 20e siècle. Elle a presque vécu 100 ans. Elle est devenue la première écologiste parce qu'elle est devenue une scientifique avérée en montant sur les bateaux de pêche. On lui demandait d'aider à trouver les zones de salinité, de pêche de poissons plus intensifs pour que les marins reviennent avec des tonnes de morues, à l'époque des grands chalutiers morutiers qui allaient en Terre-Neuve. Et petit à petit, elle s'est rendue compte qu'on surpêchait. Donc, au lieu de continuer à chercher les zones, elle a commencé à chercher plutôt comment éviter ce qu'elle appelait non pas la production de poissons, mais la destruction de poissons. Et donc, c'est cette conscientisation petit à petit du mal qu'on faisait aux océans qu'elle a commencé à inventer son métier de scientifique, de lanceuse d'alerte et de trouveuse de solutions aussi, écologiste. Elle a d'ailleurs rencontré le commandant Cousteau, avec lequel elle a beaucoup œuvré. Mais celui qui reste dans l'histoire, c'est Cousteau, c'est pas elle. Et c'est elle qui avait trouvé des solutions déjà dans les années 40-50 pour éviter le gâchis de poissons, puis après, qui va inventer en fait des solutions qui sont encore pérennes aujourd'hui pour nourrir l'humanité.
Formidable Anita Conti, dont nous allons peut-être parler davantage cette année, puisque je vous le rappelle, on vous l'a déjà dit, mais 2025, c'est l'année de l'océan en France. Une année qui sera ponctuée par de nombreux événements, dont la 3e conférence des Nations Unies sur ce sujet, qui se tiendra à Nice en juin prochain. Nous y reviendrons.
Et pour information, Catel et Bokeh propose aussi des conférences musicographiques intitulées Anita Conti, une vie océanique, accompagnée du pianiste Gwendal Giglet. La prochaine date est d'ailleurs prévu ce samedi 18 janvier au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre. Enfin, et pour finir, si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire exceptionnelle d'Anita Conti, sachez, chers auditeurs de RFI, que l'émission Si loin, si proche lui consacrera un numéro spécial le dimanche 2 février à 13h10 TU.
Voilà, 2 février, c'est noté pour moi parce que vous nous avez vraiment donné envie d'en savoir plus. Merci Caroline.
Merci.
RFI. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Les flammes ont consumé tous nos rêves, témoigne un habitant d'Altadena devant sa maison réduite en cendres. Située dans le nord de Los Angeles, la ville ressemble aujourd'hui à une zone bombardée, illustrant l'ampleur de la catastrophe. Un premier incendie s'est déclaré dans les collines du quartier huppé de Pacific Palisades, mais les foyers se sont multipliés à la faveur de la sécheresse qui frappe la Californie depuis des mois et de vents violents atteignant parfois les 160 km/h.
Et c'était un extrait d'un papier de Igor Strauss du service environnement de RFI qui suit de près l'évolution de la deuxième ville américaine ravagée par les flammes. Plus de 10 000 structures ont été détruites ou endommagées. Une zone de la taille de Saint-Louis dans le Missouri a brûlé. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur maison. Des écoles, des magasins, des restaurants et des centres d'affaires sont partis en fumée. Les pertes sont estimées à au moins 150 milliards de dollars. Raphaël Morand, vous êtes journaliste au service Amérique latine et au service environnement de RFI. Et il y a un débat sur l'après qui est en train d'émerger, car selon plusieurs experts, on ne pourra pas reconstruire Los Angeles à l'identique après ces méga incendies.
Oui, il y aura tout d'abord des précautions à prendre sur la construction même des maisons individuelles. Éviter les toits en bardeaux, ces petites tuiles de bois hyper inflammables. Éviter de planter des buissons tout près d'une habitation. Laisser de l'espace entre les maisons sans matières inflammables. Une série de recommandations d'un spécialiste des incendies de l'université de Berkeley, cité par The Atlantic. D'autres experts appellent plus globalement à repenser l'aménagement urbain de Los Angeles, comme construire des zones tampons avec de la végétation, des pelouses ou des pistes cyclables et qui limitent la propagation des flammes en cas d'incendie. Et puis vient la question délicate, faut-il reconstruire des maisons dans des zones à haut risque comme le sont les quartiers de Pasadena, Altadena, Pacific Palisades, ces quartiers imbriqués dans la végétation de collines verdoyantes, alors certes avec une superbe vue sur le Pacifique, mais exposés à ces vents très secs, les vents Santa Ana, difficiles d'accès pour les pompiers et où le manque de pression d'eau rend extrêmement difficile le stockage de réserves d'eau pour lutter contre les incendies. Le professeur d'histoire environnementale Charles Miller suggère de stopper l'étalement urbain à Los Angeles. Vous savez, ces paysages interminables de maisons individuelles alignées à perte de vue. Il propose carrément que les autorités de Californie rachètent les terrains qui ont brûlé pour empêcher qu'on y reconstruise des maisons et changer l'occupation des sols, en fait. Les propriétaires pourraient donc obtenir de l'argent, refaire leur vie ailleurs. Mais la question est quand même très compliquée. Ces zones qui ont brûlé sont détenues par des propriétaires individuels. D'autres experts recommandent de limiter les prêts garantis par l'État dans ces zones exposées aux incendies.
Alors la pression des compagnies d'assurance va aussi peut-être contraindre les Californiens à s'installer ailleurs.
Oui, la Californie fait déjà face à ce qu'on appelle un exode des compagnies d'assurance. C'est Alice Hill, experte en politique environnementale du think tank Council on Foreign Relations, qui rappelle ça. Elle avait travaillé pour l'administration Obama climat, sur les questions de résilience. Actuellement, et avant les incendies, 245 000 foyers de la région métropolitaine de Los Angeles étaient déjà classés à haut risque d'incendie. Et donc, depuis ces incendies encore plus graves, il est à craindre que de plus en plus de foyers ne soient plus assurés, que ces assurances estiment qu'elles ne veulent pas indemniser, assurer des maisons qui sont dans des zones à risque.
Alors, reconstruire implique aussi, Raphaël, et rapidement, de prendre en compte le changement climatique.
Oui, je vous donne un chiffre édifiant. Le changement climatique causé par nos émissions de gaz à effet de serre conduira à une augmentation de 3 à 50% des surfaces détruites par les feux de forêt en Californie dans les prochaines décennies. Donc, on voit ça et là émerger dans le débat sur les feux en Californie. Une réflexion sur, évidemment, le mode de vie californien. Forcément, ça pose question. C'est quand même un État qui a des lois très restrictives sur la pollution, par exemple, qui s'est fixé des objectifs très ambitieux, réduire de 40% ses émissions de CO2 entre 90 et 2030. Mais ça reste la ville fondée sur un modèle de développement qui dépend de la voiture individuelle sans transport collectif digne de ce nom.
Et pourtant, Simon Rosé, il faut vraiment tenir compte de ces recommandations expliquées par Raphaël, car en termes d'incendie, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère.
Oui, ce que certaines épistémologues, philosophes des sciences qualifient de pyrocène, l'ère du feu, puisqu'on voit l'émergence de plus en plus fréquente de ce qu'on appelle ces méga-feux, les incendies de Los Angeles s'y classent. En gros, c'est 3% du nombre d'incendies sur la planète, mais c'est la moitié de la surface brûlée. Ça pose un peu le rapport, ce sont des incendies qui sont 8 à 10 fois plus puissants, qui dégage plus de chaleur, d'énergie que les incendies glaciers. C'est ça, avec ces vents de la Santa Ana qu'évoquait par exemple Raphaël. Donc on est vraiment sur un changement d'échelle. Il y a un pompier californien dans un article de la presse américaine que je lisais qui disait voilà, arroser un truc comme ça avec un bombardier d'eau, ce serait comme une mouche qui urine sur un chien. Ça ne sert à rien. Et on arrive dans ce côté.
L'image est efficace.
Oui, les mots sont de lui, mais. On arrive à ce côté où on fait face désormais à des monstres. Je prends l'exemple qui est toujours cité, c'est l'été noir australien 2019-2020. J'ai ressorti les chiffres. On est sur des centaines de milliers d'hectares qui sont brûlés, 500 morts, 3 milliards d'animaux tués, des fumées qui font le tour de la planète, qui montent à une trentaine de kilomètres d'altitude et qui du coup ont désormais une incidence mondiale sur le climat, non seulement par le dioxyde de carbone qui relâche, la saison des incendies australiennes que j'évoquais, c'est l'équivalent des émissions en un an d'un pays industrialisé comme le Japon.
Donc,
émissions
énorme.
De gaz à effet de serre qui nourrissent en plus les facteurs qui causent ces feux. Mais il y a également d'autres incidences qu'on voit moins. Par exemple, ces panaches de fumée qui remontent jusqu'à la stratosphère contiennent des aérosols. Il y a des réactions chimiques qui se forment qui amènent à la destruction localisée d'ozone. Il y a des aérosols qui sont relargués en haute atmosphère qui ont un côté réchauffant également. Donc il y a tout un phénomène de la destruction très intense localement, mais également des effets perturbateurs qui sont mondiaux. Et au-delà de ça, il y a toute cette dimension philosophique de l'homme face au feu, ce qui ressort un peu dans le terme pyrocène. Si on parle autant des incendies de Los Angeles, c'est qu'il y a un côté fascinant, sidérant, je ne sais pas quel est le terme, mais de la relation toujours ambiguë qu'a entretenu l'humanité avec le feu. Et là, on est dans quelque chose qu'on ne contrôle plus, on est de l'ordre du bestial. C'est une bête qu'on ne peut plus éteindre. Il y aurait 1 milliard de pompiers en Californie. C'est un tel brasier est inattaquable,
inéteignable.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Tant qu'il ne le fera pas lui-même et que les conditions météo seront réunies. Et là, en tout cas, à Los Angeles, ce n'est pas parti pour s'arranger d'ici le milieu de semaine prochaine.
Non, parce qu'il y a toujours des vents extrêmement puissants et donc qui attisent les flammes. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Emmanuel Clévenot d'être venu dans C'est pas du vent. Les auditeurs peuvent vous lire sur le site de reporter.net. Merci à Caroline Fillette pour ses chroniques et la préparation de l'émission, à François Porcheron pour sa réalisation. Et merci à vous, chers auditeurs, évidemment, pour votre fidélité. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.